Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. À celui qui veut faire de sa vie une œuvre, la littérature, la vraie, propose le matériau le plus pérenne. Et Frédéric Becbédé le sait bien, lui, que l'idée de la mort chagrine tant. Et qui a consacré son existence à faire passer ses problèmes pour des fictions et sa vie pour un roman. Son nouveau roman, justement, qui est une satire de la dictature du rire dans notre société, est peut-être le premier roman qui, dans l'histoire de la littérature, échappe à un titre pour en inventer un d'un genre nouveau avec l'outil de langage qu'il dénonce. L'émoticône grimaçant de l'homme qui pleure de rire.
Europe 1.
Le livre paraît chez Grasset et Frédéric Becbédé est mon invité, bienvenue.
Merci beaucoup de m'accueillir.
Alors Frédéric Becbédé, à tout propos et pour ponctuer toute forme d'échange, l'émoticône de l'homme qui pleure de rire est le signe le plus envoyé au monde sur nos portables. Il est désormais le signe de reconnaissance, j'ai presque envie de dire, d'une sorte de secte planétaire, la secte de ceux qui se veulent cool avec le sens de la dérision. Mais derrière ça, se joue en réalité l'anéantissement d'une culture. Et vous allez jusqu'à affirmer que c'est la victoire de Disney sur Proust.
Ah oui, bien sûr, parce que là, tout d'un coup, on simplifie le langage par ces petites images et la complexité n'a plus sa place. Quand on simplifie le langage à l'extrême, on crée des affrontements, en fait. Il faut choisir son camp entre le bien et le mal. Ou alors, on est drôle parce qu'on a envoyé l'homme qui pleure de rire. Et on amoindrit la complexité du vocabulaire. Et j'ai choisi ce titre-là précisément pour symboliser quelque chose qui est en train d'arriver. D'ailleurs, je trouve que le smiley qui pleure de rire, il surjoue. Je trouve qu'il a une...
Ah oui, bien sûr.
Il en fait trop, il a la tête penchée.
C'est une grimace funeste. Hein. Plus que du rire, j'ai presque envie de dire du ricanement. Parce qu'on pense à la balafre hideuse de l'homme qui rit, voilà, le roman de Victor Hugo. Et puis, il y a quelque chose de morbide comme le masque du Joker. Non,
il est effrayant. Il est effrayant et je l'utilise comme tout le monde. En fait, dès qu'on envoie un SMS pas drôle, on essaie de compenser en mettant le smiley qui pleure de rire.
Voilà. Qu'est-ce
que je suis marrant.
Et qui est un rictus et qui n'a pas de regard d'ailleurs.
Oui.
Alors la Boétie, parce qu'on parle là de temps actuel, mais la Boétie dans son discours de la servitude volontaire dénonçait le fait de distraire le peuple pour le maintenir dans son asservissement. C'est d'ailleurs le principe des jeux de la Rome antique.
Oui, exactement.
Quand il n'y a plus d'idéal, celui qui prend le pouvoir organise la farce en faisant rire aux dépens avec cynisme, ironie, dérision. Donc aujourd'hui, le rire, c'est-à-dire celui qui vraiment gangrène les médias, il est politique.
Oui, en tout cas, en l'absence d'idéal, il a pris la place du pouvoir. Je crois que dans notre société, on peut à peu près tout critiquer. On peut critiquer les gens qui nous gouvernent, on peut critiquer les artistes, on peut se moquer d'à peu près tout le monde, sauf des humoristes. Les humoristes ne supportent pas la moquerie qu'ils exercent eux-mêmes contre tous les autres. Il est tabou de dire que les humoristes doivent aussi répondre de leurs attaques, de leurs sarcasmes, de leurs ricanements.
D'ailleurs, dans ce nouveau roman, Frédéric Becbédé, vous écrivez « Dans la démocratie du divertissement, un président de la République est moins important qu'un bouffon, car il doit supporter la caricature quotidienne, alors que le bouffon est incritiquable, le bouffon est donc un tyran. Le bouffon est un tyran car, en fait, il n'y a jamais de droit de réponse face à lui, c'est ça ?
Non, exactement.
C'est impossible.
Il y a certains hommes politiques, parfois, ont essayé de répondre à des humoristes, mais immédiatement on disait « Oh là là, le clash, oh là là, c'est un rabat-joie, il n'a pas d'humour. » Et puis l'excuse des humoristes, c'est toujours « Allons, allons, mais enfin ce n'est que de l'humour. » Alors qu'en fait, non. Parfois, ce qu'ils
cet
disent...
Cet humour-là peut tuer.
Exactement, exactement. Ça confine quelquefois à un acharnement sur certaines personnes qui deviennent des têtes de turc, des boucs émissaires de la société. Ça a commencé avec les guignols sur Canal+.
Ouais.
J'ai moi-même travaillé à Canal+, et aussi à France Inter. C'est moi que je critique aussi, quelque part. Mais c'est vrai qu'il y a un problème en ce moment. C'est un basculement où le bouffon du roi, qui est quelque chose de nécessaire, c'est important et salutaire qu'il y ait des caricaturistes qui se foutent de la gueule du pouvoir. Il le faut, bien sûr. Mais quand le bouffon devient le roi, alors là, c'est un phénomène nouveau. On voit des élections de comiques au pouvoir
dans
plusieurs pays.
Mais bien sûr. Mais alors, vraiment, il faut être Frédéric Becbédé pour avoir le cran d'écrire, je cite toujours, « Depuis l'attentat de Charlie Hebdo, Eh bien, en France, les caricaturistes sont sanctifiés. Ils ont tous les droits car leur profession est en deuil. Donc on doit comprendre que l'attentat de Charlie Hebdo a créé une sorte d'immunité, une immunité absolue autour des humoristes, quelle que soit la violence de leurs propos.
Oui, je crois que ça c'est nouveau. On critique l'immunité parlementaire, mais on ne parle jamais de l'immunité humoristique. Et j'ai moi-même publié dans Charlie Hebdo, j'adore Charlie Hebdo, et évidemment que la tragédie du 7 janvier 2015 est quelque chose d'absolument horrible. C'est une date incroyable de violence contre la liberté d'expression. Mais ça a comme conséquence qu'aujourd'hui, un humoriste est sacré. Et du coup, sa parole ne peut pas être discutée. Et moi, je crois que tout simplement, en fait, j'essaie de lancer un débat qui me paraît démocratique sur cette parole-là. On devrait, dans une démocratie, pouvoir parler de tous les discours.
Mais alors, voilà. Frédéric Becbédé, la vraie impertinence, la vraie insolence, le véritable humour sont constitués de quoi ?
Ah ben, ça dépend des goûts. Moi, c'est vrai que j'aime le non-sens british, j'aime un humour dadaïste, surréaliste, j'aime la provoque, j'aime aussi un peu le cynisme de Gaspard Proust, par exemple. Chacun a
votre avatar cinématographique.
Oui, hein, c'est vrai. J'ai eu la chance de tourner deux films avec lui. Comment dire, je crois que quand on dit humoriste, on ne dit pas grand-chose parce que ça recouvre tellement de différents styles. Celui que moi, je goûte un peu moins, c'est l'humour engagé, l'humour militant, l'humour qui veut dire le bien. Il me semble que l'humour, c'est plutôt une réaction au malheur, ouais, qu'une tentative de militer pour le bonheur.
Alors, bref, pour nos sociétés, vivre en tendant vers un idéal, c'est une folie. Mais le cynisme engendré par l'absence d'idéal, c'est un danger aussi grand. Oui. C'est l'âge qui vous fait comprendre ça, Frédéric Becbédé, qui glissez d'ailleurs dans la première phrase de votre nouveau roman, « J'ai 74 ans dans 20 ans ».
Oui, c'est terrible. Oui, sûrement, peut-être qu'il y a une partie de discours de vieux con réac dans
ce
livre. Je
ne vais pas jusque-là.
Mais je pense que cette question, c'est surtout à moi que je la pose. Moi, depuis que j'ai 17 ou 18 ans, je n'ai pensé qu'à une chose, c'est à ricaner, à m'amuser, à plaisanter. Et à quoi ça m'a avancé ? Et c'est un livre sur une génération qui a été celle de la dérision. La dérision permanente à partir de la chute du mur de Berlin, fin des utopies, fin des idéaux. Et qu'est-ce qu'on a mis à la place ? Le second degré. Donc quel est le bilan de la dérision ? Un immobilisme, il faut bien le dire, quoi. La France a-t-elle changé en 40 ans ? Ben non, pas tellement. Ce n'est pas que la faute de ma génération, j'espère. Mais enfin, on a une part de responsabilité quand on ne fait que fuir dans la vanne. C'est confortable de plaisanter, de se moquer de tout, parce que ça évite d'avoir un projet.
C'est en compagnie de Frédéric Becbédé qu'on chemine cet après-midi. Alors, on s'interrompt un bref instant, on le retrouve tout de suite.
Europe 1. Jusqu'à 16h, vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit Frédéric Becbédé qui fait paraître chez Grasset l'homme qui pleure de rire.
Alors en fait, Frédéric Becbédé, ce roman, il est né suite à suicide médiatique par acte manqué qui avait franchement du panache. Une chronique improvisée, à contre-courant bien sûr, en novembre 2018, dans l'horlogerie si bien huilée de la matinale de France Inter que vous rebaptisez France Publique dans votre roman. Alors, on vous avait embauché pour être dadaïste à l'antenne, donc d'une folie presque expérimentale. Et vous l'avez été un peu trop en osant le silence comme un saut de l'ange, un silence d'une gravité sincère d'ailleurs à une heure de grande écoute, parce que vous aviez égaré les feuillets griffonnés de votre billet d'humeur dans une boîte de nuit. Est-ce qu'au moins, Frédéric Becbédé, est-ce qu'au moins il a été jubilatoire ce sabordage ?
Ah oui, il y avait, disons, l'idée d'insérer dans un endroit très stressé, très efficace, une dose de faiblesse, d'humanité au fond, d'inefficacité. C'était quelque chose d'assez inédit. Enfin,
c'était presque poétique.
J'ai senti à ce moment-là flotter un malaise, mais en même temps c'était assez libérateur. C'est vrai que je ne vais pas défendre cette chronique qui au fond était sans doute complètement foirée, mais c'était original. Voilà, je pense que c'est assez original. Il faut imaginer si on faisait notre émission et que je vous prenais vos notes,
mais
tout d'un coup, ben, ce serait peut-être pas très sérieux, pas très professionnel, mais on aurait une conversation...
Alors ça accoucherait d'autres choses.
Comme dans la vraie vie.
Voilà, c'est-à-dire que je serais complètement déstabilisée, bien sûr, mais justement, c'est le grand saut sans filet. Alors c'est ce que vous avez osé tenter.
Oui, je crois que c'était un peu ce qu'on m'avait demandé au départ, d'être punk. Je m'amusais à passer de la musique de spa ou de la musique indienne. Je me souviens que j'avais souvent fait le coup du type qui arrive directement sans avoir dormi de boîte de nuit avec une voix qui sent la vodka. Bon, c'était pas du tout la première fois que je faisais
ça. Mais c'était la chronique de trop, celle-là.
Peut-être que là, ils en ont eu marre, effectivement. Alors, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr.
Vous nous révélez dans ce roman, Frédéric Becbédé, je lis, « La matinale, ce n'est que de l'écriture. Tout est rédigé à l'avance. L'animateur est assis devant un écran d'ordinateur et l'émission entière est une séance de lecture. Le jeu consiste donc à lire son texte en ayant l'air le plus naturel du monde. La conversation est impossible. Si quelqu'un prononce quelque chose d'imprévu, eh ben c'est la panique instantanée. Alors, un silence ponctué de réflexion en live, comme vous l'avez osé, c'était une sorte de révolution dans la mécanique trop bien huilée de cette matinale. »
Oui, c'est vrai que ça crée une panique et je trouve que la panique est intéressante parce que dans notre époque, c'est presque la situation normale et logique de l'être humain, d'être en panique quand on regarde tout ce qui arrive, et notamment l'urgence climatique, si vous voulez. Donc moi, je trouve que c'est naturel de paniquer en ce moment. Alors, au fond, engager un écrivain dans une émission qui est intégralement écrite, c'est tout à fait cohérent.
Sauf que là, c'est l'écrivain, l'écrivain qui ne lit pas ses notes, il n'a rien écrit.
En fait, c'est ça. J'étais un sans-papier, j'ai eu envie d'essayer cette expérience, peut-être précisément parce que c'est mon métier d'écrire, j'étais plus paresseux que les autres.
Oui, mais parfois vous veniez quand même avec des feuillets. Oui. Au tout départ, avec Becbédé, vous aviez accepté ce deal avec France Inter pour un bonus de reconnaissance. Pourquoi ?
Oui, au fond...
Qu'est-ce qui vous amusait dans l'exercice ?
Par curiosité, je crois. Je crois que, comme beaucoup de bêtises que j'ai fait dans ma vie, c'était par curiosité. Je me suis dit, si on me le propose, après tout, c'est plus amusant de dire oui que non. Ça va m'obliger à être discipliné, à préparer quelque chose. Et bon, aujourd'hui, tout le monde m'explique que c'était complètement nul du début à la fin. C'est peut-être vrai, mais j'ai l'impression que parfois, il y avait des moments aussi qui pouvaient être intéressants. C'est une manière pour moi de faire aussi mon travail de romancier réaliste, de regarder le monde contemporain, mais pas en le jugeant, mais en le vivant de l'intérieur.
Mais alors, là quand même, jamais chroniqueur ne fut éjecté aussi rapidement dans toute l'histoire de la rédaction de cette radio. On parle bien évidemment de France Inter, que vous avez rebaptisé France Publique. On vous avait demandé d'être punk. Bon, vous l'avez été un petit peu trop en osant presque le nihilisme. En fait, vous n'êtes pas le cynique décadent qu'on croit, Frédéric Becbédé. Il y a de la candeur dans la sincérité de cette démarche que vous avez tentée. Et il y a même une bonne dose de mélancolie, en fait. Vous êtes l'homme qui ne rit plus.
Ah, ça, c'est possible. C'est possible qu'avoir fait ce métier d'humoriste, c'est-à-dire avoir été payé pour être marrant, pour essayer d'être marrant, j'ai découvert que c'était terriblement angoissant, très, très difficile, et qu'en même temps, ça m'a lassé. Finalement, il y a des techniques que j'ai apprises pour réagir à l'actualité. Il y a des boucs émissaires réguliers. Il y a des blagues presque toutes faites où on sait que ça va marcher, ça va faire marrer. Pour moi, l'humour, c'est pas discipliné. Ça ne peut pas être autre chose qu'un accident, une réaction à ce qui arrive autour de soi.
L'humour doit être un accident.
Oui, on peut pas le prévoir, on peut pas l'organiser. Et là, dans cette radio, mais aussi sur la vôtre, il y a des gens dont le boulot, c'est de chercher toujours qu'est-ce qui pourrait, dans toutes les tragédies qui nous entourent, donner lieu à un éclat de rire. Et c'est cette espèce de fabrication du rire artificiel qui me choque, oui, je crois.
Voilà, qui est en couverture donc de votre nouveau roman.
Ça cache un problème plus profond. Voilà, je crois qu'on veut cacher des problèmes beaucoup plus graves avec cette surface de joie permanente.
On retrouve tout de suite Frédéric Becbédé.
Europe 1. Frédéric Becbédé se raconte cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 16h et au micro d'Isabelle Morizet. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Frédéric Becbédé, vous ne vous souvenez pas de votre enfance. Pourquoi une telle amnésie s'il n'y a pas de douleur à effacer ?
Ah oui, c'est la réponse. Certainement, j'ai fait plusieurs années de psychanalyse pour essayer de comprendre cette amnésie. J'ai tout effacé, en réalité, avant le divorce de mes parents.
Oui.
Je n'ai pas de souvenirs avant l'âge de 7-8 ans, sauf un. où je suis sur une plage à pêcher à la crevette avec mon grand-père. Et donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Un roman français pour essayer de comprendre cette amnésie et de meubler cette amnésie. J'ai dû enquêter, demander à mes parents, à mon frère, à tous les proches de la famille de me raconter mon enfance effacée. Oui.
Pour nous la livrer à nous. Donc vous ne vous en souvenez pas de cette enfance et on vous a rapporté que dans votre chambre d'enfant, rue Monsieur le Prince, comme ça sonne joliment, eh bien vous aviez punaisé sur un mur le titre du film « Mon nom est personne ». Oui. En réalité, ce genre de phrase plaît à ceux qui sont doués pour l'introspection et qui attendent justement que la vie soit un destin. Mon nom est personne, c'est presque un excès d'ego.
C'est très bizarre, oui. J'avais une passion pour les westerns et donc il y avait cette phrase dans ma chambre. Je crois que en fait, on écrit parce qu'on ne sait pas très bien qui on est, c'est certain, c'est juste, c'est ce que vous dites. On essaie d'appliquer la devise de Socrate, connais-toi toi-même. Et moi, tous les livres que j'ai écrits, c'était pour essayer de savoir qui j'étais. Donc c'est assez marrant parce que souvent là j'entends sur ce roman-là un reproche mais qu'on m'a fait toute ma vie.
Lequel ?
C'est comment peux-tu critiquer le rire alors que tu ricanes tout le temps ? Ou comment peux-tu critiquer la pub alors que tu as travaillé 10 ans dans la pub ? Mais j'essaie de savoir qui je suis. J'essaie de parler de ce que je connais ou de ce que je ne connais pas et de savoir pourquoi je suis comme ça. Ça me paraît intéressant. Ça me paraît intéressant qu'un écrivain n'ait pas toutes les réponses. C'est peut-être très confortable d'être romancier pour ça, parce qu'on peut poser des questions qui fâchent sans apporter de réponse. Les hommes politiques doivent avoir des réponses. Les écrivains, déjà, s'ils ont des interrogations, c'est déjà bien.
Bonne question, c'est bien. Alors, vous évoquiez à l'instant votre grand-père maternel était le comte Pierre de Châtaignier, de La Roche-Posay. Je ne sais pas si on dit Châtaignier ou Châtaignier
oui.
de La Roche-Posay. Votre mère, après avoir épousé Jean-Michel Becbédé, recruteur de grands patrons et d'administrateurs, s'est remariée avec le baron Pierre Richard de Sautret. Vous-même, dans les années 90, d'ailleurs, vous avez épousé la sublime Diane de MacMahon, descendante directe de Robert d'Orléans, petit-fils de Louis-Philippe.
Oh,
c'est
donc
compliqué d'échapper au déterminisme social, Frédéric Becbédé.
Oui. C'est un des sujets du livre, en réalité. C'est pourquoi cette attirance depuis toujours pour la révolte, comme si j'avais voulu désobéir à mon milieu social.
Ouais,
J'ai eu toute ma vie comme honte d'être favorisé, d'être né à Neuilly-sur-Seine, dans une famille aristo et bourgeoise. Comme si j'avais envie de me faire...
Vous êtes sincère quand vous dites ça ?
Oui, j'avais envie de me faire pardonner la chance que j'ai eue, au lieu d'assumer tout simplement ce qu'est cette famille. C'est très bizarre.
Alors c'est pour ça que vous êtes rapproché du Parti communiste, par exemple, et de Robert Hue dans votre jeunesse ?
Oui, en 2002, c'est vrai. Oui, sûrement cette espèce de pause qui consiste à dire « je suis d'extrême-gauche parce que je suis né dans un milieu aristo ». C'est assez classique comme truc, mais bon, là, pour la première fois, j'essaye en fait d'assumer les choses et de dire, en fait, ma famille et ce milieu, je lui dois beaucoup en termes d'éducation, de culture, de goût pour la frivolité, la littérature, un certain panache. Et aussi, c'est un monde disparu, c'est un monde déclassé. Ma famille avait des grandes maisons qui ont été vendues. J'ai pas d'héritage. On a
le sentiment que vous dites ça presque pour vous faire pardonner.
Non, mais c'est vrai. C'est simplement un constat réel de déclassement d'un certain milieu. Moi, beaucoup de gens que je connais.
Et alors ça, vous l'avez vécu comment ? C'est étrange de traverser ce qu'on appelle un déclassement.
C'est étrange et c'est peut-être sain, c'est peut-être normal que la reproduction sociale cesse, que peut-être l'injustice qui fait que certains sont toujours les mêmes à bénéficier des richesses, que la roue tourne et que ça change. C'est sans doute naturel, mais c'est une chose qu'il faut que j'analyse. Mais beaucoup de gens qui ont des noms à rallonge, comme vous avez cité, en réalité, vivent aujourd'hui dans des petits appartements. C'est fini, il y a eu une révolution en 1789. J'ai eu pas mal d'ailleurs d'ancêtres à qui on a coupé la tête à ce moment-là. Et puis, ça a changé. Donc, le personnage d'Octave Parangot, qui était dans 99 francs et dans Au secours, pardon, finalement, je ne l'avais jamais décrit sa famille. Pour la première fois, là, on sait d'où il vient.
Alors, parlons de sentiments. Pour agiter les souvenirs d'enfance qui vous manquent, Frédéric Becbédé, je rappelle que vous avez grandi presque sans père, puisque vos parents ont divorcé quand vous aviez 5 ans, sans père, mais avec un frère très différent de vous, qui est devenu un grand entrepreneur. Vous étiez complice ou pas vraiment ? Parce que vous l'avez toujours présenté comme l'enfant parfait. On a le sentiment qu'il vous a laissé qu'une seule option, c'est d'être imparfait, voilà.
Oui, c'est vrai. Oui, Charles n'aime pas du tout quand je dis qu'il est parfait, mais je pense que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est assez immaculé, qui réussit ce qu'il entreprend. Et donc aujourd'hui, je suis très fier de lui et on s'entend très très bien, mais pour un fils cadet, le petit frère d'un frère parfait, d'un frère aîné idolâtré, c'est compliqué. C'est un peu compliqué, comme dans toutes les fratries. Mais on était très proches et en même temps, on était très différents. Et c'est toujours le cas d'ailleurs.
Alors je continue de dérouler le fil comme ça. Votre première heure de gloire, Frédéric Becbédé, fut à 14 ans, en 1979, votre passage à la télé dans l'émission Temps X des frères Bogdanov sur la première chaîne. J'aimerais bien savoir par quelle magie digne de science-fiction, justement, vous étiez retrouvé devant des caméras pour une interview.
Oui, c'est dingue.
À parler d'ailleurs d'une façon si savante.
Parce que je lisais beaucoup de science-fiction et que les frères Bogdanov étaient des copains de mon père. Et un jour, ils sont venus à la maison, ils ont vu ce petit garçon qui lisait Les robots d'Asimov. Ils ont dit, oh là là, on prépare une émission sur la science-fiction, est-ce que tu ne voudrais pas venir dans la première? Et c'était à l'époque quand même massivement regardé, il n'y avait pas une centaine de chaînes ou 300 chaînes comme aujourd'hui.
Bien sûr.
Donc c'était un coup d'éclat. Enfin, dans mon école, j'étais devenu une sorte de mini-star, c'était très bizarre.
Oui, au lycée Bossuet. Tous les garçons étaient jaloux de vous, quoi.
Les filles amoureuses et les garçons jaloux. Ça changeait un peu. J'ai vu le pouvoir de la célébrité à ce moment-là. Oui, oui. J'ai pu voir les effets de la célébrité, même sur les profs. Tout d'un coup, les profs me respectaient davantage. Et puis oui, la science-fiction, en fait, m'a conduit à aimer lire. Je lisais, comme tous les enfants, d'abord des bandes dessinées. Puis un jour, je suis passé à des livres sans images, grâce à la science-fiction.
Alors vous allez me dire si le cheminement que je propose est le bon. En fait, la science-fiction vous a entraîné vers le polar vers San Antonio, San Antonio vers Antoine Blondin, Blondin vous a conduit à Céline, Céline à Rabelais, donc à tout l'univers. En fait, la lecture vous a inoculé un virus dont on ne guérit jamais, le bonheur d'être coupé du monde. Il faut beaucoup de force pour arrêter de lire des romans, car il faut parvenir à trouver plus d'intérêt en fait, au réel, qu'au livre.
Oui, enfin, lire ne coupe pas du monde. Ça, c'est vrai que c'est à la fois une coupure parce qu'on refuse de vivre au moment où on est en train de lire.
Vous êtes immergé dans un autre monde.
Mais en même temps, je crois qu'elle vous relie au monde aussi, la littérature.
À tous les mondes.
Elle fait voir des choses qu'on ne voit pas autour de soi. Elle fait s'intéresser à des pays, à des milieux sociaux qu'on ne fréquente pas. Donc, en fait, on se coupe du monde et on y plonge. Et oui, c'est une sorte de... comment on peut dire, de folie, de maladie, de vouloir lire tout le temps et ensuite écrire. C'est encore un handicap, une infirmité, parce que d'avoir cette espèce de goût pour la réclusion, finalement. Moi qui suis quelqu'un de très social, qui aime sortir, parler, rencontrer des gens, au fond, j'ai aussi quelque chose de profondément misanthrope en moi, qui est de vouloir s'enfermer et lire et écrire pendant des journées entières.
Europe 1.
Eh bien, c'est ce qu'on va évoquer dans un instant, justement, le phénomène de l'écriture, ce goût pour cette réclusion magique qui accouche d'une œuvre. On fait une pause très courte avec Frédéric Becbédé, qu'on retrouve tout de suite.
Europe 1. 15h31, tout juste. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, se poursuit bien sûr avec Isabelle Morizet et son invité, aujourd'hui Frédéric Becbédé.
Rien n'étant plus sexy que l'intelligence. Eh bien, Frédéric Becbédé est diablement sexy.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Il fait paraître chez Grasset une satire virtuose qui dénonce la dictature du ricanement dans notre société du divertissement. Et l'émoticône diabolique de l'homme qui pleure de rire est en couverture de ce nouveau roman. Alors, Frédéric Becbédé, vous dites, en fait, la littérature se souvient de ce que nous avons oublié. Écrire, c'est lire en soi. Il y a un processus très singulier, presque surnaturel, de convocation des souvenirs quand on écrit.
Oui, c'est très étrange. Si on prend l'exemple de ce dernier roman, avec ce smiley jaune sur la couverture, Octave est seul. Il est tout le temps seul pendant ce livre. C'est assez étrange, un type aussi seul. Il se promène sur les Champs-Élysées, la veille de sa chronique, il ne trouve pas d'idée, et il va de bar en bar. Et là, parce qu'il est seul, il se souvient. Par exemple, il passe sur les Champs devant une boîte qui s'appelle Le Queen, qui n'existe plus, qui a fermé. Et là, il voit les canons à eau qu'on jette sur les manifestants. Et ça lui fait penser à une soirée qu'il avait organisée où on jetait un bain moussant géant sur 400 invités. Et c'est ce processus que je n'ai pas inventé, qui est totalement plagié sur Marcel Proust. L'idée que par le souvenir naît un autre monde et on arrive à créer sur la page tout un univers et retrouver tout un univers. Quelquefois, ça peut être un parfum, ça peut être une musique qui fait renaître des images. Et c'est, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant
voilà,
dans les livres.
On tourne autour de la Madeleine de Frédéric Becbédé. Alors, la lecture est un moyen de faire disparaître le temps. L'écriture est un moyen de le retenir. C'est ça ?
Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que je n'écris que pour ça, c'est-à-dire pour tenter d'éterniser le fugace. On vit tous des milliers de choses et en les écrivant, j'espère, c'est une utopie, c'est de croire qu'on va les éterniser.
Alors vous aviez 25 ans lorsque vous avez publié votre premier roman, Mémoire d'un jeune homme dérangé. Qu'était-il urgent de consigner à cette époque-là ?
Bien écoutez, je pense que ça a à voir avec la fête. J'étais très fêtard, très noctambule et j'avais l'impression que personne ne se souvenait de nos soirées. Que les soirées, en fait, on les vit, puis le lendemain, on ne se rappelle de rien parce que quelquefois, on a trop bu. Ou... voilà. Il y a quelques photos, quelquefois, mais pas toujours. Et là, j'avais envie peut-être de capturer, de saisir tous ces moments éphémères. C'est un livre aussi très romantique, puisque c'est mmh. l'histoire d'un noctambule qui tombe amoureux. Et le problème... quand on aime la nuit, c'est qu'il ne faut pas tomber amoureux. Si on tombe amoureux,
oui,
à ce moment-là...
Oui, on tombe amoureux toutes les nuits.
Oui, c'est vrai, c'est le danger. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que c'est le problème de l'adolescence attardée. C'est que si on est vraiment amoureux, on veut construire, être ensemble, en couple, et on ne peut pas, à ce moment-là, ce n'est pas compatible avec la vie totale hédoniste.
Alors, dans le livre Un roman français que vous publierez 19 ans plus tard, donc après ces fameuses mémoires d'un jeune homme dérangé, livre qui obtiendra le prix Renaudot, vous confiez, parce que avant de vous recevoir, non seulement je me suis régalée du tout dernier roman qui est paru chez Grasset, mais j'ai repris un roman français. Mmh. Et vous confiez dans ce livre, dans une espèce d'inventaire parental, que l'envie d'écrire, en fait, vous vient de votre père. Vous êtes devenu écrivain parce que votre père rêvait de l'être.
Je ne sais pas s'il rêvait de l'être, mais c'est quelqu'un de très littéraire. Il y a toujours eu énormément de livres chez lui, mais aussi chez ma mère. Et je crois que c'est une chance, là pour le coup, pour un enfant de grandir dans un milieu qui respecte et sacralise l'écriture, la littérature. C'est vrai que moi, il y avait toujours des livres autour de moi. Et en plus, ma mère regardait religieusement... Apostrophe avec Bernard Pivot à la télévision tous les vendredis. Mon grand-père à Pau avait dans sa maison une extraordinaire bibliothèque. Et donc, j'étais fasciné.
Vous avez très tôt compris que la littérature, c'était sacré.
J'ai compris, oui, surtout que si ça intéressait toute ma famille autant, c'est que peut-être il y avait quelque chose à explorer là.
Reparlons de votre père. Votre père considérait la réalité comme très, très relative. C'est lui qui vous a entraîné à voir la vie comme un roman ?
C'est possible, oui. Il a un goût pour la provocation, pour la liberté, pour ce raisonnement philosophique qu'on appelle le solipsisme. En gros, rien n'existe à part moi. Et je crois que c'est quelqu'un de très philosophe et qui dit finalement, est-ce qu'on est certain que les choses existent autour de nous ? Ça n'est pas sûr. Peut-être pas. Peut-être que la réalité est ailleurs ou qu'elle pourrait être autrement. Donc ça, pour un enfant, d'entendre ce genre de choses, ça vous ouvre des pistes, des voies à explorer. Donc c'est assez, voilà, c'est bon. pour un môme, en gros, c'est quelqu'un qui réfléchit comme ça toute la journée, c'est assez troublant.
C'est fascinant en même temps. Alors, mais pourquoi est-ce à New York, Frédéric Becbédé, que vous avez compris que vous alliez réellement devenir écrivain ? Et pourquoi est-ce à New York que vous avez en fait inventé le personnage qu'on prend pour vous depuis 35 ans ?
Ah oui, parce que j'allais l'été dans des familles américaines. J'ai des cousins aux États-Unis. Ma grand-mère était américaine. Donc, je suis allé plusieurs étés seul dans cette grande ville. Et là, j'ai eu une liberté phénoménale pour quelqu'un de mineur. Hein. J'étais, voilà, genre 14 ans, 15 ans.
Ah oui, seul dans New York à 14 ans.
Oui, enfin, logé chez des amis et de la famille, mais en même temps avec une grande liberté, oui. Et là, j'ai commencé à prendre des notes. C'est vrai que j'ai commencé à pas mal regarder les choses et à commencer à écrire beaucoup, c'est vrai. Il y a eu aussi un voyage avec mon père où on a fait le tour de l'Amérique et où j'ai tenu un journal, en fait.
Ouais, ouais.
Je tenais un journal. Et c'est C'est en...
Ça commence souvent ainsi, d'ailleurs.
Oui, et en fait...
Tenir un journal.
C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est qu'un journal intime quand on a 13, 14 ans? Ben, c'est aussi une façon d'immortaliser le présent. Et c'est là que j'ai appris ce que c'était que la littérature.
Alors, certains écrivains sont exclusivement écrivains. Vous, vous avez eu 1000 vies parallèles à la littérature qui ont nourri vos livres. Pourquoi, dans les années 90, avez-vous choisi de travailler dans l'univers de la pub? Vous étiez mentalement construit pour cet art de la manipulation qui permettait de brasser beaucoup d'argent?
En fait, ça, oui, d'abord, c'est vrai que j'ai toujours cherché à entrer dans des métiers où on était bien payé à rien foutre. Donc ça, c'est vrai, c'est tout à fait juste. C'est pour ça aussi que j'ai travaillé dans les médias.
Il le dit autrement.
Voilà. Dans les médias, dans la pub et bien sûr à la télé. Ça, c'est dit. Non, mais c'est vrai que la pub, en fait, c'est arrivé après mon premier roman, Mémoire d'un jeune homme dérangé, donc en 90, a été lu par plusieurs publicitaires qui m'ont appelé et j'ai été embauché dans une agence.
C'est rare comme casting, ça.
Oui, ils cherchaient des créatifs et puis ils se sont dit, tiens, c'est amusant ce livre-là, il y a plein de formules, il y a plein d'aphorismes.
Ah.
Ce jeune homme a un goût pour les pirouettes verbales et donc j'ai été embauché.
Il saura nous trouver des gimmicks.
Voilà, c'était une agence qui existe toujours, CLMBBDO, qui m'ont donné ma chance comme rédacteur à l'âge de 25 ans.
Et Young and Rubicam, c'est arrivé après.
Oui, après.
Alors, il y a une chose qui m'intrigue, parce que franchement, Frédéric Becbédé, le trou noir de la chronique improvisée dans la matinale de France Inter, qui est le postulat de départ donc, de votre nouveau roman publié chez Grasset, L'homme qui pleure de rire, il vous a valu ce trou noir, votre éviction de France Inter, de la même façon que 99 francs, le roman où vous dénonciez les manipulations des publicitaires régnant sur notre société de consommation, vous a valu votre éviction de la boîte de pub, justement, Young and Rubicam. En fait, pour mieux renaître, bah vous êtes vraiment un adepte des suicides à répétition.
Oui, je trouve que c'est mieux de faire des suicides professionnels que réels. Ça montre le pouvoir d'un livre. Vous savez, quand on dit ce qu'on veut, ce qu'on pense librement dans un livre, eh bien ça provoque des réactions. Et moi, ça m'est arrivé souvent de perdre mon emploi. Là, il se trouve que dans le cas du dernier, j'ai quand même perdu mon emploi avant d'écrire le livre. 99 francs, c'était l'inverse. Ouais. Mais je trouve que ce qui est bizarre, c'est que je crois que c'est très sain et même urgent et nécessaire de critiquer les endroits où l'on se trouve. Et donc, ça ne devrait pas être un problème de critiquer l'entreprise qui vous emploie.
Europe 1.
Bon, j'évoque vos 1000 vies. Parmi elles, il y a celle de réalisateur de cinéma. Et franchement, j'ai été très surprise, Frédéric Becbédé, d'apprendre que c'est le talk show de critique sur le cinéma, baptisé Le Cercle, talk show que vous avez animé sur Canal+ pendant 10 ans, qui fait qu'un jour, eh ben, vous êtes retrouvé sur un autre plateau. Vous avez entendu une voix qui a dit « Moteur demandé !» et vous vous êtes entendu crier « Action !» Alors, à tout de suite, en compagnie de Frédéric Becbédé, justement pour évoquer cela, Frédéric, dont la vie est un roman, mais aussi un film. À tout de suite.
Europe 1. L'homme qui pleure de rire, c'est le nouveau livre de Frédéric Becbédé, un roman aux faux airs de pamphlet. L'occasion de nous replonger dans son parcours, il est l'invité d'Isabelle Morizet jusqu'à 16h sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Alors en fait, Frédéric Becbédé, eh bien c'est un talk show à la télé qui a fait de vous un réalisateur de films. À force de voir 10 films par semaine au moins pour l'émission Le Cercle, que vous présentiez sur Canal, entouré de cinéphiles aussi savants que passionnés, eh bien le cinéma a inoculé en vous l'envie de raconter des histoires en images et pas seulement en mots. Ce talk show sur Canal, ça a été votre fémis à vous, c'est ça ?
Oui, je crois, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à force de regarder des bons et des mauvais films, on finit par se dire « est-ce que je pourrais pas essayer moi aussi ?» C'est vrai, mais au fond, il n'y a pas que ça. J'appartiens à une génération qui a grandi au cinéma en regardant des films partout, tout le temps, à la télé, dans les salles.
Mais ce n'était pas le mode d'expression que vous aviez choisi au départ.
Non, c'est vrai. Mais bon, j'avais cette cinéphilie quand même. Et aussi, je dois dire, grâce à ma mère qui nous emmenait avec mon frère voir les Woody Allen le mercredi à 14h, le jour de la sortie.
Ah ouais.
C'est tout ça. C'est, c'est l'histoire personnelle, plus d'avoir animé une émission de spécialistes, de vrais cinéphiles pour le coup, Philippe Rouillet, Marie Sauvion, Éric Neuhoff et tout ça, et de les entendre parler, de voir tous les films avec eux, parce qu'on allait aux projections ensemble. Évidemment, la tentation est devenue très grande,
voilà. D'y passer. Et puis, en tant que publicitaire, vous aviez déjà l'expérience des storyboards, bien sûr, mais un film, bon, si on compte absolument tous les techniciens et les comédiens, c'est une aventure qui embarque une centaine de personnes sur deux ou trois, parfois quatre mois de tournage, et une aventure qui se découpe en milliers de plans. Vous vous souvenez de la vraie toute première journée de tournage sur L'amour dure trois ans avec Gaspard Proust et Louise Bourgoin?
Oui, très bien, je m'en souviens très bien. J'étais extrêmement intimidé, impressionné, mais extrêmement bien entouré par des gens qui avaient lu non seulement le scénario, mais aussi le roman, et qui avaient envie de raconter la même histoire que moi. Je pense que c'est ça la clé, c'est que le cinéma n'est pas un art solitaire. C'est des gens qui, s'ils sont là, c'est pour une raison précise, c'est parce qu'ils vous ont choisi aussi. Donc ils sont là pour vous aider, pas pour vous planter. Et je trouve que c'est là où c'est l'opposition entre littérature et cinéma, c'est ça, c'est qu'on doit faire de tous les accidents une richesse. Si Louise Bourgoin dit une autre phrase que ce qui est prévu, mais que c'est plus drôle, plus intéressant ou plus émouvant, c'est évidemment ça qu'il faut garder. Il ne faut pas d'orgueil, il ne faut pas d'amour-propre d'écrivain. C'est la grande différence. Mais on peut être écrivain sans être prétentieux aussi, je crois. C'est quand même important.
Alors, votre avatar littéraire s'appelle Octave Parango. Votre avatar cinématographique, c'est soit Marc Maronnier, soit Octave Parango, selon les films. Mais une chose est sûre, au cinéma, c'est Gaspard Proust qui enfile le costume de Frédéric Becbédé, comme dans le dernier film, d'ailleurs, L'Idéal. Donc, vos neurones fonctionnent de la même manière. Je parle de Gaspard Proust, mais physiquement, vous auriez peut-être aimé lui ressembler, c'est ça?
Ah, bien sûr, je l'adore, j'adore. Et j'ai beaucoup de chance, parce que c'est pas seulement un acteur, c'est un auteur. Il fait en ce moment d'ailleurs à la Comédie des Champs-Élysées un spectacle jusqu'en avril, donc j'en profite pour faire sa promo, qui est toujours aussi libre, sarcastique, brillantissime, et c'est un écrivain. Donc d'avoir choisi un alter ego qui est également écrivain, c'est une richesse supplémentaire.
Un écrivain joué par un écrivain.
Oui, parce qu'on joue, du coup, on écrit ensemble le film. Non, je veux dire, le scénario, c'est moi, mais au tournage.
Mais dans sa manière d'incarner.
Au tournage, bien sûr, les propositions fusent. Et quelquefois, lui aussi va dire autrement les choses ou rajouter une réplique de lui ou improviser une chose nouvelle. Et moi, c'est ça que je préfère. Au fond, je suis sur un tournage, je pense que je ne suis pas le réalisateur, je suis le premier spectateur.
Alors, Frédéric Becbédé, vous en êtes où de votre brouille, paraît-il, avec Nicolas Bedos, autre beau gosse qui écrit aussi bien qu'il tourne et qui est d'ailleurs le favori des prochains Césars. Tout va bien entre vous?
Oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Vous savez, Nicolas est ultra sensible, moi aussi. Donc parfois, on peut s'agacer mutuellement, peut-être parce qu'on se ressemble trop. Mais c'est vrai qu'il a.
C'est ce que j'allais vous dire.
Mais oui, mais c'est vrai que à un moment, j'ai pu dire des choses qui l'ont fâché réciproquement, mais c'était complètement idiot et j'ai vu La Belle Époque, et vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs films français de l'année. Je le félicite, je l'applaudis, je lui ai dit, franchement, là, ça y est, parce que c'est difficile de faire ce qu'il a fait, de passer du statut de chroniqueur tête à claque à véritablement cinéaste, et pour ça, il a énormément travaillé. Je pense quand même que malheureusement, tous autant que nous sommes, même si nous croyons que nous allons être brillants sans rien foutre, il faut quand même un peu de besogne. Et ça se voit, la différence entre le premier et le second film de Nicolas est faramineuse.
On retrouve tout de suite Frédéric Becbédé.
Europe 1. Allez, place à la dernière partie de l'entretien d'Isabelle Morizet avec Frédéric Becbédé. Son dernier roman s'appelle L'homme qui pleure de rire, et c'est paru chez Grasset.
Bon, lol, mort de rire, Frédéric Becbédé. Le monde entier se gondole en même temps qu'il se réchauffe. Alors, donnez-moi une bonne raison, aujourd'hui, de faire la fête. Vous qui êtes le président à vie du Cacasse Club, cette secte de noceurs des beaux quartiers, appelant à une débauche digne de la Rome décadente, qui a réuni entre 1984 et 1994 aussi bien Édouard Baer que Jean-François Copé. Les raisons de faire la fête aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 30 ans, mais en plus tragique.
J'ai l'impression que c'est compliqué. J'ai l'impression qu'on ne fait pas la fête de la même manière, notamment à cause de la surveillance numérique. De mon temps, moi qui suis une personne très âgée, on pouvait faire à peu près n'importe quoi la nuit sans être affiché en photographie sur des réseaux sociaux qui n'existaient pas. Et puis tout le monde n'avait pas un appareil photo en permanence dans sa poche. Ça, c'est un phénomène qui rend les délires un petit peu plus rares et compliqués. Mmh. D'ailleurs, il y a maintenant des boîtes ou des bars qui confisquent les téléphones à l'entrée.
Ah, carrément ?
Oui, 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 j'ai déjà vu ça. Et ça, ça crée une ambiance de liberté tout d'un coup. Mais bon, je ne vais pas faire l'apologie de l'autodestruction, mais je crois que c'est important de temps en temps la fête. Et j'avais parlé avec Philippe Meuret, qui est un grand ennemi de Homo Festivus, qui dénonçait dans ses livres cette fête obligatoire organisée par les gouvernements. Mais lui-même était un hédoniste.
Voilà.
Oui. Ouais. En fait, il considérait que la fête, de même que le rire, doivent être une exception et non la règle. Donc peut-être que c'est ça le problème. Il faut arriver à ce que la fête, ça soit toujours quelque chose d'improvisé, d'inattendu.
Frédéric Becbédé, vous dites une mauvaise réputation se gagne en un clin d'œil, mais se perd beaucoup plus lentement. Votre mauvaise réputation, en fait, a cessé d'infuser votre littérature, parce que vous avez eu le prix Renaudot, vous avez eu l'Interallié, pourtant, bah, vous voyez sérieusement comme l'incarnation d'une littérature post-naturaliste à tendance néo-décadente.
C'est compliqué. Hein,
parce que vous dites, vous décrivez votre avatar littéraire dans le dernier roman qui paraît chez Grasset, c'est-à-dire Octave Parango, justement comme l'incarnation de cette littérature post-naturaliste à tendance néo-décadente. Vraiment ?
Oui,
vous pensez qu'on vous considère toujours ainsi ?
On confond souvent l'auteur avec ses personnages. Ça, c'est quelque chose de classique, de traditionnel, mais qui a été un problème pour beaucoup d'écrivains. Alors, en même temps, il est vrai que je joue de ça. Je joue avec ce masque. Ça m'amuse parce que d'être planqué derrière cette mauvaise réputation me donne une liberté. Je peux, par exemple, sur France Inter, faire le mec bourré qui n'a pas dormi et en rajouter aussi sur cette mauvaise réputation. Elle me sert aussi,
mais
il faut le dire.
Il faut nourrir sa légende.
Oui, puis c'est mieux finalement d'avoir une mauvaise réputation que pas de réputation du tout. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours bien amusé. Et là encore, dans le dernier roman, j'en joue énormément. Alors qu'en réalité, moi, j'ai une vie plutôt de père de famille provinciale, disons néo-rural plutôt que néo-décadent.
Eh bien justement, parlons-en de cette nouvelle vie. Paris, c'est fini. Vous habitez désormais dans un village au bord de la mer, à presque 1000 km au sud de la capitale, avec dans le jardin un hamac qui se balance entre deux platanes, le ciel qui change sans cesse de couleur, et puis les tourterelles qui dansent sur les branches des pins. Donc Paris, c'est fini. Jusqu'à quand ?
C'est drôle, parce que c'est les questions que me posent tous les Parisiens. Mais comment fait-il ? Comment fait-il ? Oh là là, le pauvre, il va revenir.
Je ne vis pas à Paris. J'ai fui comme vous,
bon,
Paris,
vous voyez,
Frédéric.
Mais oui, bien sûr. Ben, en fait, c'est pour moi, jusqu'à quand ? Mais j'espère le plus longtemps possible. Pardon pour nos auditeurs parisiens, mais j'ai vécu pendant 50 ans dans la plus belle ville du monde. Et puis je suis parti et je ne le regrette jamais. La seule chose qui est vraie, c'est que en tant que provincial, quand je monte à la capitale pour vous voir, Isabelle, je redécouvre ma ville. Je redécouvre la beauté de certains immeubles, de certains quartiers. Et ça, c'est, il faut avoir foutu le camp pour redécouvrir la chance qu'on a d'habiter ici, d'habiter à Paris. Ça, oui.
Jean d'Ormesson, pour qui vous aviez une vraie tendresse, hein, a un jour confié à un ami, alors qu'il nageait dans l'eau translucide d'une crique délicieuse, il lui a confié, bon, mourir quand on a eu une vie de merde, bah voilà, c'est un soulagement. Mais franchement, mourir quand on a eu ma vie, bah c'est une double peine.
Oui.
Ça pourrait être la vôtre, cette phrase,
oui,
de d'Ormesson.
Et j'aime beaucoup aussi une autre phrase de lui. Il a dit quelque part qu'aujourd'hui, l'humour avait remplacé la gaieté. Ça, c'est très beau, parce que ce qui se perd en ce moment, c'est peut-être une certaine joie de vivre, une certaine légèreté, une certaine frivolité. Moi, ce que je regrette avec la mort de Jean d'Ormesson, c'est bien sûr la culture, le goût de l'histoire et des grands écrivains, mais surtout, c'est sa gaieté, son espièglerie qui me manque.
Puisque vous dites justement, Frédéric Becbédé, aujourd'hui que l'humour a remplacé la gaieté, eh bien, voilà, reparlons de ce dernier roman qui paraît chez Grasset, dont le titre est l'outil de langage qu'il dénonce l'émoticône de l'homme qui pleure de rire. J'ai appris qu'avant de choisir celui-ci, cet emoji en couverture, vous aviez fait une liste des titres possibles. Mm-hmm. Un peu comme on fait une liste de noms pour l'enfant qui va naître.
Oui.
Comment a-t-il failli s'appeler ce dernier opus de la trilogie d'Octave Parangot ?
Alors, il y avait l'humoriste le plus écouté de France, qui est la phrase que Nicolas de Morand a prononcé
chaque fois qu'il vous annonçait,
voilà, en me lançant, voilà. Il y avait, mais c'était quand même un titre très prétentieux. Il y avait le sens de l'humour que j'aimais bien parce qu'il y avait un double sens. Voilà, quel est le sens de l'humour dans notre monde ? En fait, très vite, j'ai eu cette idée de mettre ce symbole, cet emoji.
Mais c'est effrayant de constater qu'il est finalement peut-être plus efficace que les mots,
oui,
qui sont vos outils habituel.
Oui, c'est vrai. Je ne suis pas fier d'ailleurs de ça, parce que finalement j'ouvre une brèche pour que les romans cessent d'utiliser le vocabulaire, quoi. Tout d'un coup, cette image, elle m'est apparue comme le miroir parfait de ce qui ne va pas dans notre société.
Bon, alors, un grand coup de pied dans les émoticônes. Vous savez bien que la littérature, la vraie, rend immortelle Frédéric Becbédé.
Est-ce qu'on est sûr que le livre survivra à la prochaine décennie ? C'est plutôt ça qui m'inquiète.
Eh bien, j'attends le prochain bouquin qui, justement, analysera cette question-là. Merci infiniment de nous avoir accompagnés cet après-midi. Je rappelle que le nouveau roman vraiment jubilatoire vient de paraître chez Grasset, avec cet effroyable émoticône grimaçant de l'homme qui pleure de rire. À très très vite et bon retour à Guétari, Frédéric Becbédé.
Merci.
C'était « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Isabelle Morizet revient le week-end prochain dès 15h sur Europe 1 en compagnie de deux nouveaux invités, l'humoriste et comédienne Bérangère Krief et le réalisateur de OSS 117, oui, Michel Hazanavicius.